Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous, juste un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui pour vous annoncer que, comme vous l'aurez donc remarqué, on reprend par la présente en quelque sorte les épisodes du vendredi, donc notamment les dans le viseur, les récits d'opération, mais aussi les autres formats dont je vais vous dire un mot dans un moment. Voilà, simplement pour dire que bon, j'en suis évidemment extrêmement heureux, ça a mis trop longtemps, on a eu pas mal de difficultés mais on finit par s'en sortir. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que le podcast marche bien, c'est-à-dire au-delà des émissions du mardi qui peuvent aussi avoir une dimension de récit d'opération évidemment. Il y a eu encore il n'y a pas longtemps une émission avec le général Destremo qui en prenait une bonne part, mais d'une manière générale je trouve que c'est comme ça que le podcast marche bien sur ses deux pieds en quelque sorte, avec à la fois les analyses du mardi, souvent avec des chercheurs, et en même temps des formats un peu plus variés, un peu plus divers, qui permettent d'avoir d'autres regards sur les problématiques et sur le monde de la défense en général. Alors on reprend donc tous les vendredis. Au début, les premiers dans le viseur sera notamment en partenariat avec l'école de guerre Terre, que je remercie beaucoup de s'être associé avec nous pour faire donc ces récits d'opérations. Il y aura d'autres partenaires, l'an dernier c'était très essentiellement l'école de guerre, cette année c'est un peu plus varié, donc il y a l'école de guerre Terre, il y aura aussi l'école navale, il y aura, j'espère, l'école de guerre tout court, et par ailleurs, vous aurez aussi de temps en temps des épisodes avec des militaires ou d'anciens militaires qui m'ont contacté par eux-mêmes pour raconter des récits d'opérations. Dans tous les cas, à chaque fois, je préciserai au début de l'émission avec qui l'émission est en partenariat. Donc, on a à présent enfin le stock pour relancer les dans le viseur. On ne va pas s'enflammer non plus et on ne va pas pouvoir tout de suite reprendre le rythme de 3 par mois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une semaine sur deux. Une semaine sur deux, il y aura un dans le viseur et l'autre semaine, il y aura un autre format. Donc, évidemment, les têtes chercheuses, les articles audio, c'est-à-dire les versions audio d'articles de recherche, plutôt les discussions autour d'un article de recherche universitaire qui touche aux questions de défense. Et enfin, on va réintroduire aussi des dans le bunker, donc le format qui était quotidien au moment du premier confinement et qui avait rencontré un très chouette accueil. Et du coup, ça me fait aussi tout à fait plaisir de continuer à faire ça, même si je peux pas reprendre le rythme quotidien. Je trouve que c'est une bonne chose de proposer des analyses avec soit des chercheurs, soit des militaires, d'objets de culture populaire, et notamment de films ou de séries. Donc voilà, à l'échelle d'un mois, ça fera dans le viseur, tête chercheuse, dans le viseur, et dans le bunker, pour les 4 semaines du mois. Je vous laisse donc avec ce premier épisode du vendredi de donc la 3e saison du Collimateur, cette semaine donc en partenariat avec l'école de guerre Terre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, en partenariat avec l'École de guerre Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Romain. Bonjour commandant.
Bonjour.
Alors vous êtes pilote dans l'ALA, donc l'aviation légère de l'armée de terre, vous êtes pilote d'hélicoptère, pilote de Gazelle même, donc un hélicoptère léger d'attaque, de soutien au sol, pour l'histoire que vous allez nous raconter. Et cette histoire, je vais vous laisser peut-être le présenter, enfin dresser le décor. Je crois que c'est en Centrafrique, donc autour de 2014-2015, c'est bien ça?
Ouais, exactement, oui. Donc c'est au cours de l'opération Sangaris. J'ai été engagé en tant que chef de patrouille Gazelle en Centrafrique, donc en mai 2014. Avec la mission effectivement d'appuyer les opérations au sol qui s'étendaient à quasiment l'intégralité de la Centrafrique, en tout cas un bon 2/3 de la Centrafrique à ce moment-là.
Mais alors c'était essentiellement, enfin je veux dire c'était plutôt en milieu urbain ou en milieu rural ou les deux indifféremment, je veux dire même par rapport à votre monture j'ai envie de dire, par rapport aux hélicoptères Gazelle, enfin ça s'adapte à quel Est-ce que ça s'adapte bien à des patrouilles au-dessus d'une ville ou est-ce que c'est mieux pour couvrir beaucoup de terrain à la campagne? Enfin,
De fait, l'aérocombat est vraiment employable dans tous les milieux, dans le désert, en jungle, en ville. On a des procédés, des modes d'action qui sont systématiquement un peu différents, qu'on adapte, parce qu'effectivement, par exemple, en ville, on a des problèmes de visibilité, notamment quand il y a des immeubles, ce qui n'est pas trop le cas, je vous avoue, en Centrafrique. Et là, en l'occurrence, effectivement, la gazelle, c'est quand même un hélicoptère qui est très rustique. Donc, vis-à-vis de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, c'est quelque chose qui tient bien. Il y a assez peu d'électronique dedans. Donc, c'est un outil qui était très efficace et avec des phases de vol parfois un peu intenses effectivement, sur les villes et les villages. Et puis, entre-temps, des vols de transition pour rejoindre une zone d'opération à une autre très longue, assez calme, parce qu'il fallait parfois voler pendant plus d'une heure au-dessus de la forêt sans voir une piste, sans voir un village. Donc là, on se sent un petit peu plus seul, c'est différent.
Et alors, l'histoire, le jour, le souvenir que vous allez nous raconter, ça se situe où? À la campagne, à la ville?
Alors, en l'occurrence, ça se situe effectivement au-dessus d'une ville, Bambari, qui est la deuxième ville du pays, qui est quasiment en plein centre de la Centrafrique, qui est le carrefour d'un certain nombre d'axes commerciaux, et à une période où la ville était plutôt en proie à des affrontements instrumentalisés, interethniques et interreligieux, entre globalement, pour faire un peu schématique, des Arabes musulmans qui étaient dans une partie de la ville commerçants, très commerçants, et plutôt des chrétiens agriculteurs, plutôt d'ethnie noire qui étaient dans d'autres quartiers de la ville. Voilà, donc il y avait des affrontements, mais c'était assez instrumentalisé à ce niveau-là.
Et donc votre rôle là-dedans, c'était quoi? C'était de monitorer tout ça? C'était de surveiller les affrontements, de les pointer? C'était
Alors,
de...
effectivement, il y avait donc un groupement tactique interarmes qui était déployé au sol, en sécurisation contrôle de zone, on dit exactement dans le vocabulaire militaire, de la ville de Bambari et de ses environs directs, notamment pour tenir d'abord l'aéroport de Bambari, qui était à 15 km de la ville, et puis assurer après la sécurité des camps de réfugiés. Il y a beaucoup de réfugiés de mémoire, plusieurs milliers, peut-être plus de 3 000, je crois, près de Bambari, et puis assurer le fait que la ville ne s'embrase pas. Et donc, dans ce cadre-là, on avait déployé par rotation des patrouilles d'hélicoptères, d'attaque ou de manœuvre, sur l'aéroport de Bambari, qui permettent après de rayonner à partir de Bambari sur d'autres localités,
C'est quoi la
notamment.
différence entre hélicoptère d'attaque et de manœuvre?
Alors, les hélicoptères d'attaque et de pardon, vous avez les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, que sont les tigres et les gazelles. Donc, le tigre vraiment qui est plus offensif et la gazelle qui est plus en recours. Et puis, les hélicoptères de manœuvre et d'assaut, HMA, qui sont toute la gamme des Puma, Cougar, Caracal, NH90, Caïman maintenant, et qui permettent de transporter plutôt des troupes ou du matériel et qui ne font pas d'appui-feu.
Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une permanence dans les airs, quelle que soit la machine, et éventuellement s'il y avait besoin de déployer un tigre ou une gazelle en cas de besoin direct.
Alors, on ne peut pas parler de permanence dans les airs, puisqu'à la différence de l'infanterie, par exemple, la latte ne tient pas ni le terrain ni les airs, parce que ça consomme du kérosène, de la mécanique. En revanche, on est systématiquement en alerte, effectivement, à des pas de 15, 30 minutes, 1 heure, en fonction de la situation et des moments de la journée, pour pouvoir décoller rapidement et appuyer en cas de besoin. Voilà. Ça, c'est une de nos missions permanentes, assurer ce qu'on appelle la Quick Reaction Force, au profit des troupes au sol.
Et donc?
Et donc j'arrive à Bambari. Ça devait faire 15 jours que j'étais sur le théâtre à peu près. J'arrive la veille assez tard en fin de journée pour une mission effectivement de relever un équipage qui était, enfin une patrouille qui était déjà présente en vue d'appuyer les opérations dans la zone. Et puis on distingue effectivement que il se pourrait qu'il y ait une fuite d'huile sur un des ensembles mécaniques de mon appareil. Donc en accord avec le mécanicien, on programme un vol dit de vol technique, mais c'est un peu galvaudé parce que vol technique ça recouvre une réalité très particulière. Disons qu'on va faire un vol pour vérifier si effectivement au bout d'une heure et demie de vol on a perdu de l'huile ou pas. Donc je décolle
Mais c'est
pour.
habituel, ça? Enfin, je veux dire, c'est...
Alors que les ensembles mécaniques suintent de l'huile, ça c'est systématique, hein, surtout voilà, même votre voiture suinte dans votre moteur forcément perd toujours un peu d'huile. La question c'est de le quantifier et puis que ça reste dans des normes acceptables parce qu'on fait des recomplètements réguliers qui sont prévus dans les opérations de maintenance. Là, a priori, ça pouvait paraître anormal. Mais c'était peut-être tout simplement parce que l'appareil avait été parqué un petit peu sur un terrain un peu en pente ou que le plein avait été fait un peu juste à l'entretien d'avant. Donc voilà, il s'agissait de s'en assurer. Afin de ne pas dépenser des heures de vol et du potentiel pour rien, puisque c'était un vol qui n'avait pas de caractère opérationnel en première approche, je rencontre quand même au poste de commandement du groupement tactique interarmes qui était sur zone de ma mission, à caractère technique à la base, et je propose, du coup, pendant ce temps-là, éventuellement d'observer, de reconnaître, d'éclairer, de renseigner sur certaines parties de la ville, en liaison avec les différents drone tactical air controllers, les JTAC, qui sont au sol, qui sont les artilleurs spécialisés de l'appui-feu aérien. Voilà.
C'est-à-dire autant aller faire un tour, tant qu'il s'agit d'aller faire un tour, autant qu'il serve à quelque chose.
Voilà, c'est ça, que ça ne serve pas à rien. Il se trouve que du coup, je suis en configuration, comme c'est quand même une zone qui est considérée quand même comme hostile, je suis quand même en configuration de combat complète. Donc j'ai mon gilet pare-balles, mes protections, mes leurres, mon armement personnel et ma machine est armée, avec deux missiles anti-char HOT qui sont sur la gazelle à ce moment-là. Et puis donc le vol se déroule, voilà, je renseigne certaines parties, il y a des mouvements de foule, je prends conscience qu'effectivement la situation est toujours assez volatile. Les officiers que j'ai en contact radio sont très calmes à la radio, systématiquement ils me disent que vous pouvez renseigner sur cette partie, on a des mouvements de foule, vous pouvez confirmer. Et puis on m'envoie à un moment donné vers l'ouest de la ville où la situation là elle est un peu plus que volatile, elle est un petit peu tendue, on sent qu'il y a des groupes qui essaient de s'infiltrer dans la ville ou qui essaient de contourner, mais on n'arrive pas à savoir est-ce que ce sont ce qu'on appelle...
Comment est-ce que vous voyez ça depuis l'hélicoptère?
Alors c'est difficile à voir parce qu'avec la canopée d'une part et puis même sinon la savane d'autre part, c'est pas simple, donc on voit des mouvements, on voit des gens qui sautent, qui s'infiltrent. Alors les comportements sont quand même, on arrive à les distinguer au bout d'un moment, donc ça se fait d'abord à l'œil nu en grand champ, hein. C'est vraiment, on regarde à travers la bulle. Pour le coup, la gazelle est quand même bien faite, il y a un grand espace. Et ensuite, quand on a besoin de zoomer, on a notre caméra thermique, qui a évidemment une vue optique et thermique, et sur laquelle on a sur différents niveaux de zoom. Et donc là, après, on peut vraiment aller chercher.
Et donc vous savez que s'il y a des types qui sont en train de sauter par-dessus des barricades, bon, c'est qu'il y a un truc qui se passe, on sait
soit
pas quoi.
Soit quelque mais... chose, soit ils rentrent quelque part. Mais ouais. On fait pas ça juste pour aller faire son marché, a priori. Surtout quand on est nombreux et qu'on a l'air de tenir des longs bâtons, qui peuvent être des sagaies, des machettes, des fusils, en bandoulière, voilà.
Donc il y avait un peu de ça.
Donc il y avait un petit peu de ça, on voit des mouvements, on sent que du coup il y a une compagnie qui se déploie à l'ouest de la ville, une compagnie française se déploie à l'est de la ville. Et a priori on entend que...
Toute la ville était sécurisée par l'armée française, par Saint-Garis ?
Non, on peut pas, parce que ça demanderait beaucoup trop de troupes pour sécuriser. Bombari, je vous dirais une bêtise sur le nombre d'habitants, mais c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc il faut plus qu'un régiment qui était réparti sur plusieurs emprises pour arriver à sécuriser vraiment la ville. En revanche, on a des dispositifs d'interdiction, on a des checkpoints, et toujours des dispositifs de réaction rapide au sol qui permettent d'agir.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des militaires français, il y a des personnels français au sol qui tiennent le checkpoint, etc.
Ouais.
Donc ce genre de mouvement que vous me décriviez, ça peut éventuellement être dangereux pour les militaires qui sont placés quelque part.
Exactement, exactement, qui effectivement bloquent les principaux accès, mais on peut quand même avoir des mouvements de contournement de ces dispositifs-là par les groupes armés qui essaieraient de rentrer dans la ville. Ouais. Je comprends que justement ils ont détecté effectivement ces mouvements aussi, donc j'essaie de renseigner, de leur dire bah, ça passe plutôt par là, ça passe par ici, attention au sud, le carrefour, il y a des gens qui franchissent en pirogue le fleuve qui passe par là, pareil des gros groupes, et puis je comprends à un moment donné que potentiellement il y a quelques coups de feu tirés. Alors quelques coups de feu tirés en fait en Centrafrique en 2014 ça veut tout rien dire. Ça peut être des chasseurs, ça peut être des gens qui s'amusent à tirer en l'air de joie, c'était manifestement pas le cas. Et ça peut être juste vraiment de l'intimidation, je traverse la route, je tire une rafale et je continue et ça s'arrête là.
Mais comment vous voyez ça?
Alors moi, je le vois pas et je ne l'entends pas. Avec le bruit de la turbine, le bruit des pales, le casque qui nous isole un petit peu, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Éventuellement, je peux l'entendre, je l'ai déjà entendu, mais c'était pas à cette occasion-là, mais quand mon interlocuteur au sol prend la radio et qu'on entend des coups de feu derrière, là je peux l'entendre. En l'occurrence, là, j'entends rien du tout. Mais je sens un petit peu la pression qui monte. Encore une fois, la voix du JTAC au sol de mon interlocuteur est très calme, renseigné par ici, mesuré, voilà. Et puis à un moment donné, alors qu'on sentait que bon, il se passait peut-être quelque chose au sol, je reçois un ordre, donc une demande du JTAC qui est prenez message CCA, donc CCA ça veut dire Close Combat Attack, c'est une procédure qui demande un appui-feu hélicoptère, voilà. Appui-feu qui est sous ma responsabilité, toujours du chef de bord, mais qui est quand même demandé. Et en fait, en parallèle, lui demande à sa chaîne hiérarchique au sol s'il peut bénéficier d'un appui-feu hélicoptère, parce que c'est pas le JTAC qui décide à son niveau. Mais en fait, le fait de dire ça, donc c'est-à-dire que okay, je vais engager le feu, alors je dis pas que j'étais pas prêt, parce qu'à partir du moment où on est en opération, on est toujours prêt à cette éventualité-là. Mais en tout cas, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là, je n'avais pas perçu que ça nécessitait un appui-feu hélicoptère.
Vous étiez un peu loin de votre fuite d'huile, quoi.
De ma fuite d'huile, oui, c'est ça. Alors j'avoue que je n'y pensais pas du tout, effectivement, à ce moment-là. Et en fait, de fait, il m'explique après, dans son message, dans la procédure, qu'il y a un pick-up avec une mitrailleuse 12-7 dessus, qui les prend à partie, et qu'ils n'arrivent pas à neutraliser, qui est caché dans la véhicule. Du coup, il me donne à peu près la position, il me dit, voilà, il faut la neutraliser, parce que sinon, en fait, là, on n'arrive pas et on est un peu fixé.
Donc en fait, il y a une 12-7, donc une mitrailleuse mi-lourde, quoi, qui leur tire dessus.
Voilà. Et donc, ils manœuvrent, mais avec la jungle, etc., c'est difficile de manœuvrer et de sortir. Donc, même s'ils débordent, il y a d'autres personnes qui leur tirent dessus. Mais en tout cas, ce qu'ils voudraient, c'est neutraliser ça pour deux éléments, j'imagine. Enfin, en tout cas, en avoir discuté avec eux a posteriori. Le premier, c'est que c'est comme une vraie menace pour eux et qu'ils peuvent avoir des pertes. Et le deuxième, c'est qu'ils se disent, en faisant un appui-feu hélicoptère au-dessus, ça va quand même calmer tout le monde. Mais attention, on n'est pas tout seul, donc on s'arrête tout de suite. Donc, il y avait un vrai effet dissuasif.
Donc, et vous avez quoi pour neutraliser une 12-7?
Alors, ce qui marche bien pour un véhicule, de manière générale, c'est un missile anti-char.
Ça marche pour un char,
a fortiori, ça marche
ça,
pour un pick-up.
C'est ça, qui peut le plus, peut le moins. Si vous pouvez taper un T-72, c'est sûr qu'un Toyota, ça devrait faire l'affaire, quoi.
Voilà. Et la difficulté après, c'est de le localiser par la désignation du tech avec un dialogue constant, de le faire rapidement, parce que je comprends quand même, là, du coup, la tension monte un peu, elle est plus palpable.
Mais comment... il vous donne une position ou est-ce qu'il a un moyen de le pointer ou pour que vous le trouviez rapidement?
Alors pointer, on le fait de nuit souvent, là c'était de jour en l'occurrence, donc c'est pas hyper efficace, mais en tout cas effectivement on donne les coordonnées de l'ami et on donne un cap distance vers l'ennemi. Voilà, donc après c'est à moi de faire...
Donc il est à mon 120 âge...
Exactement, pour 800 mètres, derrière, et après il me décrit derrière une maison au toit rouge à côté d'un palmier. Alors ce qui est toujours difficile en fait, parce que d'abord il y a toujours une sorte de parallaxe, enfin, c'est pas tout à fait un parallaxe, c'est pas tout à fait il y a un biais en tout cas entre ce que voit la personne au sol et ce que voit le pilote en l'air. Parce que des maisons au toit rouge, j'en ai peut-être 5 devant moi, avec des palmiers à côté, j'en ai sûrement 5 aussi devant moi.
Et des pick-up, c'est pas ce qu'il y a de plus rare dans la région non plus?
De pick-up, il n'y en avait quand même pas tant que ça. Et en tout cas, avec une superstructure à l'arrière, un 12-7, ça se voit assez bien, mais évidemment, il n'était pas au milieu de la route. Il était un peu caché, un peu dans les sous-bois, sous un arbre, donc il fallait le voir un peu en biais, d'où l'intérêt de l'hélicoptère, parce que comme on vole quand même assez bas, on a une vision qui est un peu oblique, à la différence des chasseurs, par exemple. Donc c'est difficile pour eux de se cacher sous la canopée. Ça a été, par exemple, un des succès de la latte en Libye, c'est parce qu'on avait une vue oblique. Donc il a vraiment fallu faire une bascule mentale avec mon pilote. Je me sens, on s'est regardé un peu étonné.
Oui, parce qu'on n'a pas précisé, mais vous êtes plusieurs.
Un équipage c'est deux, oui.
D'accord.
Dans une gazelle. De concurrence, on est deux, et en fait, au moment où on a le message, c'est ça, alors qu'on a compris qu'il y avait la tension, mais que ça s'améliore. Enfin, voilà, il faut faire un appui-feu. Donc, c'est vraiment, il faut switcher très très vite, configurer vite le système d'armes qui était en veille, donc il faut bien le mettre en marche. Et puis être prêt à tirer, donc vite trouver la cible, parce que s'il nous demande, c'est que il est sous le feu, donc il faut faire quelque chose, il faut réagir assez rapidement. Et là, il y a toujours une vraie pression qui est difficile à absorber, parce que c'est les copains au sol qui sont en train de se faire tirer dessus, et nous, on peut faire quelque chose. Peut-être qu'on se fait aussi tirer dessus, impossible de le savoir de toute façon, en l'occurrence, ce jour-là, je ne crois pas. Mais en tout état de cause, de notre position, on peut sûrement faire quelque chose pour les aider. Et donc, il faut le faire vite.
Donc, il faut le faire vite, mais en même temps, il faut le faire sans se presser.
Faut le faire bien, parce que on est dans ville, donc faut pas faire de dommages collatéraux, il faut pas se tromper de cible, il faut s'assurer que les éléments amis les plus proches de l'objectif sont bien sous blindage, parce qu'il y a quand même une zone de, il y a ce qu'on appelle une zone de dommages collatéraux potentiels, enfin en tout cas où il y aura peut-être des éclats, des choses comme ça, une zone létale, voilà. Donc il y a quand même une procédure à respecter qui est bien faite, mais voilà, il faut le faire vite, il faut faire la procédure, il faut trouver l'objectif déjà, c'est quand même vraiment difficile, d'autant plus que les coups de feu de jour sont difficiles à voir, et quand on n'a pas le son.
Du coup, on est sur combien de temps, enfin, comme un écart temporel, c'est-à-dire entre le moment où ils vous demandent le truc, où bon, c'est intégré, ça prend combien, ils prennent le feu de la 12-7 pendant combien de temps?
Alors, de mémoire, ce jour-là, je crois que j'ai dû mettre entre 4 et 5 minutes, parce que le temps de trouver l'objectif, j'ai dû me représenter une deuxième fois, et en plus, j'ai eu un défaut missile, mais en fait, ça paraît très très long, 4 ou 5 minutes.
Oui, c'est ça. On comprend bien que c'est très court quand il y a plein de choses à faire, et en même temps, quand on prend le feu, ça doit être long. Ouais.
Ouais, et puis même en l'air, on se dit vraiment, il faut que je me dépêche, donc il y a une pression. Et donc, je me présente une première fois, effectivement, et j'ai un problème de défaut missile. C'est-à-dire que c'est un défaut qui peut arriver sur un certain nombre de munitions, hein, en fonction des conditions de stockage, l'humidité, la chaleur, etc. Et puis même une malfaçon peut-être du missile. C'est-à-dire que l'allumeur s'allume au fond, mais le missile ne part pas. Donc j'ai toujours le missile sur rampe et ne part pas. Alors qu'en plus, j'annonce à la radio le compte à rebours, donc tout le monde s'attend à voir partir le missile et ne part pas.
C'est-à-dire le booster à l'arrière du missile
s'allume, mais en fait le missile ne part pas. Donc moi j'ai toujours un missile armé sur mon appareil, qui n'est pas parti.
Qui pousse et pousse ?
Ouais, non, la force de pousser n'est pas suffisamment grande par rapport à l'hélicoptère, donc ça ne dérange pas, mais c'est quand même problématique de ne pas avoir le missile dans le champ. Il y a un effet psychologique important sur l'ami, parce que du coup il s'attendait à avoir un départ, et en fait il n'y a pas. Moi du coup je fais une présentation, j'étais en présentation dynamique entière pour éviter la menace quand même, et du coup il faut que je me représente pour tirer.
Ça veut dire que vous
je tire en bougeant,
voilà,
On peut tirer en se mettant en poste d'observation, ce qui est facile, ce qui est simple, et puis on peut réarmer un autre missile rapidement, ce qui est dangereux, parce qu'à partir du moment où on est statique, forcément, on peut être pris à partie. Ou je tire en dynamique, ce qui était le cas là, avec un tout petit créneau, parce qu'en fait, je suis arrivé à avoir entre deux arbres et un petit créneau, et il fallait que je tire à ce moment-là. Donc il faut que je me représente, donc je l'annonce. Donc à nouveau, la pression qui augmente très très fort.
Il ouais, y en a encore pour deux minutes.
Et bah, quasiment, pour aller faire le tour, se représenter, quasiment par le même axe, qui est quand même jamais très serein en termes de sûreté non plus, parce que l'hélicoptère va se représenter par le même axe, c'est quand même une cible à haute valeur ajoutée.
C'est-à-dire peut-être que autant le premier coup, ça les a pris de surprise, autant là, ils vous attendent.
Exactement, autant potentiellement au deuxième, peut-être que la Doucette, elle va se lever en voyant un nouveau hélicoptère qui se présente et à ce moment-là, tire en l'air.
Et ça, c'est très dangereux. Enfin, je veux dire, vous êtes très sensible à une Doucette ou vous craignez quoi? Vous craignez une roquette, une mitrailleuse lourde? Qu'est-ce que...
Alors, le missile solaire, c'est l'ennemi principal de l'hélicoptère, très courte portée, par exemple, les Stinger en Afghanistan, ce qui marche très bien. Maintenant, la Gazelle, c'est une bulle en plexiglas dedans. Donc, autant vous dire qu'une Doucette, ça passe très très bien à travers et c'est absolument pas blindé. Ce qui est blindé, c'est notre gilet pare-balles et le siège, donc sous les fesses et dans le dos. Donc le pilote est protégé, mais en revanche la machine non. Donc une machine avec un moteur en moins, ça vole toujours plus comme une pierre qu'autre chose. Donc voilà, donc on se représente, et là on tire, heureusement le domicile part la deuxième fois, coup au but, voilà, le pick-up est détruit, on sent le soulagement à la voix du JTAC, et donc on sent que la situation va s'apaiser. Il se trouve que moi, en parallèle de ça, il faut que je continue à vérifier ce qu'on appelle mon playtime, pour s'assurer que j'ai toujours ma réserve de kérosène nécessaire et suffisante pour rejoindre l'aéroport. Au passage, j'avais quand même demandé, j'avais annoncé pour demander une relève, pour continuer à assurer une permanence de l'appui. Au moment de la demande du message CCA d'ailleurs. Et donc là, je me rends compte que okay, je continue à sécuriser, mais j'ai plus d'armes. Et donc je donne juste du renseignement sur la situation et je dis, voilà, de toute façon, j'ai une gazelle qui arrive dans 3 minutes. Donc je vais pour partir. Bah,
parce que donc vous avez un missile qui est parti, qui a fait coup au but, un autre missile qui ne marche pas, vous n'avez pas de mitrailleuse, vous n'avez rien d'autre. Vous avez
à part mon armement personnel, mais je ne vais pas tirer par la fenêtre, ce n'est pas la procédure, mais non, je n'ai rien d'autre.
D'accord. Donc en fait, voilà, il faut y aller quand même.
Là, il va falloir y aller, puis de toute façon, le kérosène commence à baisser un petit peu, il faut y aller. Et pour la petite anecdote, ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où on incline l'appareil vers l'avant, on pique pour prendre de la vitesse, c'est le principe en hélicoptère, le missile qui était dans son tube commence à sortir. Donc il n'était pas question qu'il tombe à la verticale, surtout sur une maison. Donc il a fallu rentrer en se redressant un petit peu, en un peu sur le côté, un peu en biais. Donc voilà, c'est deux petits moments qui en fait détendent très vite, parce que du coup ça nous a plutôt fait exploser de rire, de « oh attention, attention, attention », alors qui a fait redescendre très vite la tension de l'engagement. Et après pour rentrer, poser, croiser, donner les consignes et les positions et la situation tactique à l'ailier qui me venait me relever, etc.
Et ce que j'en trouve, c'est vous avez eu le fin mot de l'histoire ? De qui c'était, ce qui s'était passé. Enfin, est-ce qu'il y a du renseignement, je veux dire, en aval, de bon, bah là, c'était ces types-là qui étaient venus faire ça, voilà, qui vous avez tapé exactement, et les conséquences, disons, tactiques sur la situation dans cette partie-là de la ville?
Alors, oui, on a toujours un débriefing, et il y a toujours une analyse renseignement derrière de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé, quelles conséquences ça peut avoir sur l'équilibre, qui est très instable, et on est systématiquement associé au débriefing, et en général également nos films de tir sont toujours donnés après à la chaîne de commandement pour que ça remonte.
Vous prenez toujours des films, il y a toujours une...
Oui, c'est toujours enregistré. Sur la gazelle, en vision thermique, pardon, c'est enregistré en vision optique, ça ne l'est pas, donc on essaie toujours de tirer au moins sur la finale en thermique pour bien s'assurer que c'est bien le véhicule ennemi qui avait été désigné, ne serait-ce qu'après si quelqu'un dit « Ah, vous avez tué mon véhicule, vous avez cassé mon véhicule », ouais, mais il avait une Doucette dessus, il était en train de tirer, donc... Ça c'est quand même important et donc
l'assurance ne joue pas du coup.
Ouais, exactement. Donc, en termes de contentieux, c'est compliqué. Donc on a toujours ce souci quand même de pouvoir avoir une preuve du tir. C'est important pour remonter là-dessus.
Et du coup, ça vous aide aussi à faire des. Enfin, je veux dire, ça fait vous entraîner sur vos anciens films, quoi. Enfin, vous débriefez ce que vous faites bien et pas bien.
Alors exactement, on en débriefe en interne équipage et ensuite, quand on monte des exercices, moi je me souviens avoir spécifiquement monté un exercice sur ce genre d'objectif assez caché, assez difficile, avec un seul axe d'approche possible. Pour mes équipages après quand j'étais commandant d'unité où je donnais les scénarios en m'inspirant de mes OPEX à moi ou d'autres OPEX, d'autres scénarios effectivement pour rendre toujours l'entraînement le plus réaliste possible et notamment ce qu'on peut faire c'est sur simulateur, on peut vraiment arriver à reproduire quasiment ça.
À reproduire vos anciennes
ouais,
opérations
ouais, pour, ouais. Pour parce qu'on peut placer un pick-up là à côté d'une maison en engagement urbain donc il y a un angle etc. Donc travailler ces savoir-faire là.
Très bien, merci beaucoup commandant Romain.
Merci à vous.
Thank you. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.